Au début de cet entretien, nous confions au Père du ciel pour que nous puissions faire sa volonté et qu'il nous fasse découvrir le visage de son Fils dans l'esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, chers frères prêtres, nous poursuivons notre chemin dans l'Évangile selon saint Jean, ce chemin, ce pèlerinage qui est, comme je vous le disais aussi, et peut-être d'abord un pèlerinage intérieur pour chacun d'entre nous, pour nous laisser rejoindre par la parole comme saint Antoine autrefois s'est laissé rejoindre par la parole. Je parcours des textes avec vous, vous avez entendu 20 fois, 30 fois, 40 fois, que vous avez commenté 60 fois, 70 fois. Mais si nous croyons que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu, elle est neuve chaque fois que nous l'entendons. Et Antoine, qui avait déjà dû entendre 20 fois le même texte, l'a entendu un jour. Et ce texte lui a parlé autrement, d'une manière nouvelle. Et c'est cela qui va, vous le savez bien, lui faire changer le parcours de sa vie. On pourrait parler de la même manière de saint François d'Assise et de son appel. Cet après-midi, nous allons faire un pas de plus, puisque nous allons aller vers une autre rencontre. Ce matin, souvenez-vous, nous étions à Jérusalem. Jésus y était arrivé, avait vécu la Pâque, il avait chassé les marchands du temple. Et puis, il y avait eu cette rencontre, cette venue de Nicodème, cet homme notable pharisien, qui était arrivé avec beaucoup de certitude et qui est sûrement reparti avec beaucoup de modestie, mais dont on sait aussi combien la rencontre avec Jésus va le marquer, puisqu'on va le retrouver dans l'Évangile plus loin, devenant un vrai disciple de ce rabbi de Nazareth. Et puis que va-t-il se passer après? Il n'est pas inintéressant de revenir sur ce que vous avez peut-être lu, comme je vous le conseille, avant notre entretien au chapitre 4. Après cela, Jésus, vous l'avez observé, ne va pas tout de suite repartir en Galilée. Il commence un ministère dans le pays de Judée. Il est là. Il n'est pas très loin de Jean le Baptiste et ses disciples. Jean est en train de baptiser à Aenon. Et puis, il se trouve que Jésus lui-même mène une activité de baptiste avec ses propres disciples. Il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qu'il se met lui aussi à baptiser et tous vont vers lui. » Ce sont des choses qui n'arrivent jamais aujourd'hui dans l'Église, hein, les concurrences entre différents groupes, ça n'arrive pas, mais ça doit nous consoler tout de suite. Le groupe de Jean-Baptiste et ceux qui baptisent autour de lui, le groupe de Jésus et ceux qui baptisent autour de lui, parce qu'à vrai dire ce n'est pas lui qui baptisait, nous dit saint Jean, rentre en concurrence. Les gens se divisent un peu, vous voyez. Et c'est de Jean-Baptiste que nous avons la réponse à cette tension. Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il écoute. Et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. La joie de l'Évangile, la joie d'avoir rencontré Jésus, de voir qu'il est là en train d'annoncer l'Évangile, c'est la joie de Jean-Baptiste, qui s'efface devant le mystère du Christ. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. La modestie du Baptiste. Donc Jésus commence cette activité, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi correspond ce baptême. Puisqu'en Jean 7, on nous dira, lors de la fête de Soukhot, deuxième année du ministère de Jésus, on nous dira que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Donc, on peut supposer que c'est un type de baptême juif, d'appel à la conversion. mais certainement pas encore le baptême tel que nous l'entendons aujourd'hui et tel que Jésus, à la fin de l'évangile, après sa résurrection, enverra « baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Quelle est cette activité baptismale? On ne sait pas bien. Et puis il y a un petit épilogue du chapitre 3. D'ailleurs, les exégèses se battent pour savoir qui parle, puisqu'on ne sait pas du tout qui parle. Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est l'évangéliste? Et puis nous arrivons au fameux chapitre 4 que je vais, si vous voulez bien, lire ce passage et puis le commenter. Sachant que, en même temps, Jésus, je précise juste avant cette lecture, Jésus va décider de quitter la Judée, vous l'avez lu. Pourquoi? Parce que les pharisiens commencent à s'intéresser à son activité de baptiste. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier. Il y a plusieurs éléments qui traversent en fil rouge l'évangile selon saint Jean. Il y a la question de l'autorité. Quelle est l'autorité? Au nom de qui Jésus agit-il? Comme le baptiste d'ailleurs. Et une deuxième question qui traverse l'évangile selon saint Jean, ce sera la tension continue entre Jésus et les pharisiens, et entre Jésus et ses détracteurs. Elle commence dès le chapitre 2, et nous verrons, en tout cas vous le verrez, nous ne le lirons pas ensemble, c'est le chapitre 5 en particulier, le chapitre 6, qui nous montre la montée en puissance de la tension entre Jésus et ses détracteurs. J'y reviendrai demain. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger, mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, « je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et maintenant elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils étaient stupéfaits que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu ? » La femme, alors abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Si vous le voulez bien, nous allons traverser ce texte en trois temps. D'abord pour nous arrêter sur la rencontre elle-même et son contexte. Puis, dans un second temps, nous nous arrêterons sur le quiproquo au bord du puits. Ce matin, nous avions un quiproquo de nuit. Là, c'est au bord du puits. Et puis, dans un troisième temps, nous verrons comment nous sommes nous-mêmes interrogés quant à notre propre puits. Et cela posera la question de la vie de l'esprit et de notre prière. Premier temps, donc, Jésus au puits de Jacob. C'est important ce passage au bord d'un puits. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qui sont données à Israël et qui rappellent le don de la loi. Et un de ces dons, c'est le puits. Le puits rappelle la loi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est face à un puits, il faut chercher l'eau dans le puits. Darash en hébreu, qui a donné le Midrash, il faut aller en profondeur pour recevoir le don du puits. Tout comme il faut chercher à aller en profondeur dans la loi pour trouver ce que la loi a donné aux juifs pieux. Donc s'arrêter à un puits est important et symbolique. En tout cas, on nous dit que Jésus devait traverser la Samarie. Vous le savez, vous avez peut-être même fait des voyages en Israël, des pèlerinages, des recherches sur le terrain. Jésus n'avait absolument pas besoin de passer par la Samarie pour remonter vers la Galilée. Il lui suffisait de défendre de Jérusalem à Jéricho, de prendre le bord du Jourdain tranquillement. La route est droite, il y a de la fraîcheur, il y a de l'eau. Non, il ne lui fallait pas passer par la Samarie. Dans la réalité historique, il lui fallait passer par la Samarie parce qu'il avait quelqu'un à rencontrer. Ce « il fallait » est un « il fallait » du salut. Et c'est ainsi qu'il parvient avec ses disciples dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph. C'est toujours très intéressant de voir que Saint Jean, qui est un évangile qui nous montre tout de suite la divinité du Christ, est en même temps celui qui s'arrête souvent sur les détails les plus concrets de la vie de Jésus. Jésus est fatigué du chemin. Et on peut le comprendre. Quand on a un jour traversé un peu la Samarie, c'est une zone assez désertique, difficile pour la circulation. Et donc on peut imaginer Jésus fatigué de cette marche qu'il a eue depuis Jérusalem, et il s'assied tout simplement au bord du puits. On nous précise que c'est la sixième heure. L'information est importante, pourquoi ? Parce que vous le savez bien, la sixième heure, c'est l'heure de midi, c'est-à-dire l'heure la plus chaude de la journée, c'est-à-dire l'heure à laquelle personne ne vient chercher de l'eau dans un puits. Quand on cherche de l'eau au puits, surtout dans les pays chauds, on cherche le matin ou on cherche le soir, mais personne ne vient à l'heure de midi. Ou plutôt, quelqu'un vient à l'heure de midi si ce quelqu'un n'a envie de rencontrer personne. Et donc on peut imaginer que cette femme est venue, cette femme que nous allons bientôt découvrir, cette femme de Samarie, est venue là parce qu'elle ne voulait rencontrer personne. Et c'est vrai que ce que nous allons apprendre de sa vie personnelle, évidemment, plaide pour cette hypothèse. C'est une femme dont nous allons découvrir qu'elle a eu plusieurs hommes dans sa vie, qu'elle n'est pas mariée. L'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. On imagine les quolibets des femmes autour du puits ou dans tous les lieux de sociabilité. Et on imagine que cette femme n'a pas envie d'être vue, n'a pas envie d'entendre, n'a pas envie de subir les regards de ces femmes vis-à-vis d'elle. Et en fait, elle va totalement rater son affaire puisqu'elle va rencontrer quelqu'un. Elle va même vivre la rencontre de sa vie. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à poser d'autres hypothèses. J'ai un jour entendu un prédicateur qui disait finalement peut-être cette femme qui a eu 5 maris, qui vit avec un homme qui n'est pas son mari, a vu de loin ce beau jeune homme juif, n'est-ce pas ? Elle s'est peut-être dit à une ouverture et peut-être s'est-elle approchée pour ça, je n'en sais rien. Voilà, c'est une hypothèse en tout cas que j'ai entendu poser. Jésus est donc au bord du chemin, il est fatigué. Il est fatigué. Saint Augustin, commentant notre passage, dit « Quelle est sa fatigue ? C'est la fatigue de nous chercher pour nous sauver. Ce n'est pas d'abord une fatigue physique. Il est fatigué de nous courir après. Il est fatigué de nous chercher. Il est fatigué de donner sa vie pour notre salut. Arrive alors une femme de Samarie pour puiser de l'eau. On l'a dit, cette arrivée de cette femme samaritaine est assez étrange. Pourquoi c'est assez étrange? Pourquoi? Parce que, comme nous le savons, les Samaritains et les Juifs, d'ailleurs l'Évangile va nous le dire, n'ont rien de commun et ne veulent rien avoir de commun. En fait, ils ont une partie d'histoire commune, puisque les Samaritains viennent du peuple hébreu au départ, dont ils se sont détachés. Mais en fait, tout sépare cet homme et cette femme. D'abord, bien évidemment, l'un est un homme, l'autre est une femme. Leur religion les sépare. Elle est considérée comme une idolâtre. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des idolâtres. Ils ont une différence de culture. Ce sont deux peuples qui s'ignorent et même qui se haïssent. Et ce sont deux peuples en plus qui peuvent de loin s'authentifier et s'identifier puisqu'ils ont des manières de se vêtir qui les distinguent. Donc la femme a très bien vu qu'elle avait affaire à un juif et Jésus, voyant arriver la femme, voit très bien que c'est une samaritaine. Et voyez-vous, c'est ce qu'il y a de beau dans l'évangile, ce qu'il y a de beau dans l'espérance chrétienne au-delà de l'évangile, c'est que parfois ce qui semble rendre une rencontre totalement impossible va la permettre. Aucune des conditions ne sont réunies. Ça vaut pour nos remises en question missionnaires et pastorales, où parfois nous pouvons être tentés d'une certaine, comme disaient certains auteurs, une sorte de mystique du « si ». Vous savez, la mystique du « si » dans la mission. Si j'avais un curé comme ci, si j'avais un évêque comme ça, si j'étais dans une paroisse qui... Il n'y a pas de mystique du « si », il y a ce qui vient. Et Jésus prend la Samaritaine telle qu'elle est. C'est la fatigue de Jésus, c'est la situation de cette femme qui vont permettre la rencontre et qui vont être une chance. Ce qui apparemment est un problème devient une chance. Deuxième temps alors va commencer ce dialogue. Ce dialogue, ce quiproquo entre Jésus et la femme, qui est le pendant du quiproquo de ce matin avec Nicodème, il croyait tout comprendre, et elle aussi, elle va croire comprendre. Mais elle ne comprend rien. Jésus va prendre l'initiative quatre fois avec elle. Jésus va d'abord commencer de la manière la plus simple, et je trouve que c'est une admirable pédagogie catéchétique qu'il nous donne, la façon dont nous avons parfois besoin, avec des personnes, de changer notre manière d'aborder la question de la foi, la façon de devoir s'adapter continuellement aux personnes. Jésus va passer son temps dans le dialogue à s'adapter et à essayer de trouver l'ouverture. Voilà. Jésus commence d'abord par la chose la plus simple et il lui demande « donne-moi à boire ». Quoi de plus naturel, il est au bord d'un puits, il est fatigué, il a soif, il part de ce qu'il y a de plus élémentaire, la réalité de sa situation, il demande à boire à cette femme. Et l'Évangile prend soin de nous dire, les disciples en effet étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger, et oui, on est fatigué, on a faim, on fait une halte, Jésus est seul, donc c'est la possibilité pour lui de demander à cette femme de l'aider. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, verset 9, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine ?» La première tentative de Jésus pour parler à cette femme se solde par un échec. La femme est offusquée. Et elle lui répond de cette manière-là, vous le savez bien, parce que un homme et une femme, de manière générale, en Orient, il y a 2000 ans, ne se parlent pas en public quand ils ne se connaissent pas. Raison de plus entre une samaritaine et un juif. Ça ne se fait pas. Elle lui fait une leçon de savoir-vivre. Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi une femme samaritaine? Et l'Évangile précise, les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les samaritains. Jésus va alors reprendre l'initiative une deuxième fois. Et c'est très beau de voir cette persévérance de Jésus qui prend l'initiative pour parler à cette femme, pour rejoindre cette femme, pour la toucher. Et là, Jésus va changer de méthode. Il avait commencé tout simplement par la nécessité dans laquelle il était pour la rejoindre. Et il va commencer à essayer d'aiguiser sa curiosité, d'aiguiser son désir sur son identité à lui. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. En d'autres termes, si tu savais qui je suis et ce que je peux te donner, eh bien, c'est toi qui me demanderais à boire. Que va alors répondre la femme au verset 11 ? La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive ?» Elle commence par un constat. « Tu voudrais me donner à boire, tu n'as même pas un seau, le puits est profond, tu vas faire comment ?» Pardonnez-moi, elle commence un peu à se moquer de lui. Et elle va poursuivre en se moquant de lui, en le tournant en dérision. Puisqu'elle va lui dire « Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Et là, elle se moque directement de lui. Pourquoi ? Parce que les commentaires juifs concernant le puits de Jacob nous disent la chose suivante. La pierre que l'on roulait de sur la bouche du puits quand tous les troupeaux étaient rassemblés, Jacob pouvait la rouler avec un seul de ses bras. C'est le commentaire de l'Écriture que font les juifs. Donc Jacob, quand il arrivait au puits, c'était un homme tellement fort qu'avec un seul bras, il roulait la pierre sur le puits. Vous savez, c'est la pierre qui bouche les puits pour éviter que des bêtes n'y tombent et que l'eau devienne saumâtre. Le puits se mettait à déborder et l'eau montait devant lui. Le puits continuait à déborder tout le temps que Jacob était à Haran. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que circule une histoire sur Jacob, sur ce fameux puits. C'est que quand Jacob venait, non seulement il était tellement fort qu'il arrivait à enlever la pierre sur le puits d'un seul bras, mais en plus de ça, il n'avait pas besoin de seau. Puisque quand il était là, l'eau montait toute seule et elle débordait du puits. Ce qui montre l'autorité de Jacob et la force, la puissance de Jacob. Et vous voyez bien qu'elle se moque de lui. Elle lui dit « Tu veux me donner à boire ? Tu n'as même pas de seau ?» Ou alors, peut-être, et elle le tourne en dérision, « Serais-tu plus grand que notre père Jacob ? Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu peux faire monter l'eau du puits, toi ?» Qu'est-ce que répond Jésus, qui ne se laisse pas démonter ? Reste en calme. Jésus lui répondit au verset 13, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Si vous observez bien, nous sommes tout à fait dans le parallèle de ce qu'il a dit à Nicodème. Il est en train d'entraîner cette femme qui ne va pas y parvenir, elle ne va pas décoller. Il est en train d'essayer d'entraîner cette femme vers une lecture spirituelle, vers une compréhension spirituelle de ce qu'il est en train de faire. Il essaie de l'élever, comme il a essayé d'élever Nicodème en lui parlant d'une nouvelle naissance. Il essaie d'élever cette femme en lui parlant d'une eau qui étanche toute soif. Après l'avoir été intrigué par sa question, il n'avait pas le droit de lui parler, après l'avoir intrigué sur son identité, si tu savais qui est celui qui te parle, il va l'intriguer sur cette eau vive qu'il est censé pouvoir lui donner et qui étanchera sa soif. Verset 15, la femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Évidemment, elle n'a rien compris. Mais pouvait-elle comprendre ? Elle ne comprend pas que Jésus est en train de lui parler, bien évidemment, d'une soif spirituelle et d'un aliment spirituel. Que va faire alors Jésus ? Que va faire alors Jésus ? Eh bien, Jésus va une quatrième fois prendre l'initiative. Et là, que va-t-il faire ? Il va tout simplement mettre la femme face à sa propre vie. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Elle se rend. Elle se rend, pourquoi ? Parce que Jésus va la toucher au plus intime d'elle-même. Il va la toucher au cœur. Parce qu'en lui disant qu'elle a eu cinq maris, que celui avec qui elle est n'est pas son mari, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en lumière ? Il est en train de mettre en lumière le cœur de cette femme et la soif qui est en elle. La soif qui est en elle, comme en tout être humain d'ailleurs, mais qui chez elle est particulièrement marquée. Observez tout simplement que Jésus ne fait aucune remarque d'ordre moral. Il sort ni le droit canon, ni Amoris Laetitia, ni Familiaris Consortio. Il est tout simplement là à observer ce qu'elle vit. C'est-à-dire il la laisse elle-même juge de ce qu'elle vit. Et qu'est-ce qu'il observe ? Elle a eu cinq maris, celui qu'elle a n'est pas son mari, ça veut dire qu'il y a en elle une soif d'aimer et d'être aimée. Elle aime mal peut-être, mais elle a soif d'aimer. Et c'est bien la raison pour laquelle la femme se rend. Elle se remet à Jésus. Elle cesse de goguenardiser, elle cesse de minauder, elle cesse tout son cinéma qu'elle a fait lors des trois premières discussions. Jésus lui a révélé le désir profond de son cœur, son désir d'aimer. Et c'est pourquoi, devant ce regard de Jésus sur le plus intime d'elle-même, elle lui dit, tu es un prophète. Tu es capable de voir en moi. Je reconnais ce que tu as vu en moi. En fait, il a révélé à cette femme l'angoisse de son cœur. Cette peur justement de ne pas être aimé, qui l'a fait peut-être aimer n'importe comment. Vous le savez bien, c'est comme ça, vous accompagnez des hommes, des femmes, vous savez bien que souvent les vies débridées, c'est tout simplement de la souffrance, de la peur. Et c'est en mettant cette femme en vérité qu'il va alors la libérer. C'est ça qui est magnifique, c'est la vérité qui rend libre. Il met cette femme en vérité, il lui dit la vérité, et cette vérité la libère. La libère de l'amertume, la libère des désillusions, et parce qu'elle est libérée de toutes ces illusions, de ces désillusions, elle retrouve alors, très étonnamment, c'est absolument inouï cette affaire ensuite, elle retrouve le chemin de l'essentiel. Rappelez-vous ce matin, je vous le disais avec saint Antoine du Désert, où est notre but ? Où est la finalité ? Et le risque dans nos vies, nous, des professionnels de la parole de Dieu, des professionnels de la grâce, le risque parfois, c'est de nous perdre dans le secondaire et l'accessoire et d'oublier l'essentiel et la finalité, d'être dans la contingence. Et c'est pour ça que nous avons besoin souvent de revenir à qu'est-ce qui est l'essentiel ? Où est le but ? Quel est le but ? Et saint Antoine nous l'a dit ce matin. En fait, il révèle à cette femme qu'elle a besoin d'aimer et d'être aimée, et il révèle qu'il y a en elle un puits. Au puits, il lui révèle qu'il y a un puits. En elle. Il y a une source en elle. Ensablée peut-être. Et ce puits, c'est le lieu où elle doit venir rencontrer celui qui pourra la combler. C'est pourquoi elle pose immédiatement la question. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Immédiatement, quand Jésus lui a révélé le fond de son cœur, ce lieu de l'amour, elle pose la question de l'adoration. Où faut-il adorer ? Où faut-il aller puiser ? Où est la source véritable ? C'est-à-dire, elle rentre dans la gratuité de l'amour. Non pas la recherche de son intérêt, mais la gratuité de l'amour. On reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. Qui a dit ça ? Le même que ce matin, hein ? Saint Jean-Marie Vianney. On reconnaît les vrais amis de Dieu au fait qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. Quel mérite avez-vous de faire ce que vous êtes obligés de faire ? C'est l'enfance de l'art, ça. Mais faire ce que nous ne sommes pas obligés de faire. Entrer dans la gratuité de l'amour. Là où on ne compte plus. Pensez à Saint Bernard de Clairvaux au début du De Diligende Deo. Pour quel motif faut-il aimer Dieu ? Le seul motif pour aimer Dieu, c'est l'amour lui-même. Et quelle est la mesure de cet amour ? C'est la deuxième question, c'est de l'aimer sans mesure. Et donc Jésus peut répondre alors à cette femme qui l'interroge sur l'adoration véritable. Parce qu'il l'a emmenée à l'essentiel et parce qu'elle a consenti à se laisser conduire vers l'essentiel. Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'adoration, ce n'est pas une réalité qui s'opère dans un lieu, même si je sais bien qu'on peut adorer le Saint-Sacrement, bien sûr. Nous parlons là de l'adoration dans le monde juif et de l'adoration fondamentale de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Oui. C'est la révélation de la première alliance qui nous indique où se trouve l'adoration. Et Jésus alors peut finir, l'heure vient et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Et là Jésus dit quelque chose d'essentiel à cette femme, qu'il ne dit à personne d'autre dans tout l'évangile. Il lui dit, tu as un désir en toi, le désir d'être aimé, mais il y a quelqu'un, comme toi tu cherches à aimer, il y a quelqu'un qui cherche à aimer autant que toi. Il y a quelqu'un qui cherche aussi cet amour sans calcul, cet amour total. Et celui qui cherche cet amour, c'est le Père. C'est bien, on peut faire une analyse métaphysique, Dieu n'a besoin de rien, il est parfait, on a bien compris. Bien évidemment, c'est une manière anthropomorphique de dire les choses, mais qui correspond à une réalité que Jésus révèle ici. Il y a comme un manque chez le Père. Le Père a soif d'être aimé gratuitement. Des gens qui viennent le taper tout au long de la journée, ça ne manque pas. Mais le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et si Jésus dit que le Père cherche des adorateurs, c'est qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Sinon, il ne chercherait pas. Il cherche notre amour gratuit. Il cherche le temps que nous lui donnons parfois sans compter, et en plus de celui qui est compté. Parce qu'en fait, ce que Jésus révèle ici à la Samaritaine, bien évidemment, c'est aussi à chacun de nous qu'il le révèle. Le Père nous cherche Le Père cherche notre amour. Et voyez-vous, c'est toujours intéressant de se dire, j'aime bien poser cette question, elle n'est pas provocatrice, elle est tout simplement la réalité. Moi, j'ai travaillé un petit peu modestement à ma place en théologie spirituelle, pas mal de mystiques, j'en ai lu pas mal de spirituels. La vraie question qui nous est posée, et au cœur d'une retraite, c'est une question qu'il faut mettre au cœur de notre vie de ministère et de vie donnée et de vie consacrée. Quand est-ce que pour la dernière fois j'ai dit à Jésus tout simplement et au Père, je t'aime? Alors, vous pouvez me dire, ah ben on a un prédicateur un peu émotif, un peu. Non. Vendredi en Jean 21, au bord du lac de Galilée, Jésus posera cette seule question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Il ne fera pas passer un master. Hein. Est-ce que tu m'aimes? Et ne commençons pas par dire, mais je ne sens pas d'amour, donc je. Non, c'est pas ça. L'amour est dans la volonté. On ne vous demande pas des grandes émotions, des grands A et des grands O. On vous demande un amour d'adoration, de volonté, où nous nous remettons au Seigneur. Entièrement, totalement. C'est le cœur de notre ministère. La femme lui dit, après avoir entendu ça, comme incroyable, Jésus lui a dit des choses absolument inouïes et on ne sait même pas son nom. Moi, un de mes rêves, quand j'arriverai au ciel, c'est de rencontrer la Samaritaine. Je saurai son nom. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Voyez cette femme. Elle sait des choses. Elle est dans une attente. Son désir, non seulement est un désir d'aimer humainement, mais elle attend et aussi, elle a une espérance spirituelle, une espérance religieuse. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset 26, je le suis, moi qui te parle. Je pense que vous le savez, c'est la seule personne à qui Jésus dit dans tout l'évangile qu'il est le Messie. Nulle part ailleurs et à personne, Jésus ne dira qu'il est le Messie. C'est la seule personne à qui il le dira. Sur quoi les disciples arrivèrent, ils étaient stupéfaits que Jésus parlât avec une femme. Ah oui, évidemment. Ils n'ont pas assisté à l'échange. Cependant, personne ne lui dit que cherches-tu ou pourquoi lui parles-tu. Une espèce de pudeur des disciples, qui est très belle d'ailleurs. Il y a le mystère de la rencontre, comme le secret du roi dans la rencontre de Dieu. C'est le mystère de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous l'a rencontré d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est notre secret à chacun. Et puis, il y a parfois notre sainte pudeur sacerdotale qui fait que, voilà, il y a des choses dont on ne parle pas. Mais pourtant, si nous sommes cet après-midi dans cette pièce, c'est que tous, à un moment donné, nous avons rencontré ce Seigneur qui nous a appelés à lui. La femme, alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Souvenez-vous, le premier entretien que nous avions lundi matin, où nous était donnée la clé de la mission. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. André avait rencontré Jésus, plein d'enthousiasme, il était venu amener son frère Simon-Pierre à Jésus. Et il se passe la même chose avec la Samaritaine. Parce que la rencontre est authentique. Parce qu'elle a rencontré Jésus en profondeur, la joie de l'Évangile remplit son cœur à cette femme. D'ailleurs, ça remplit tellement son cœur qu'elle en oublie même sa cruche. C'est intéressant le détail que nous donne l'Évangile. Comme si elle savait qu'elle n'a plus besoin d'un récipient pour porter l'eau, puisqu'elle est devenue elle-même pleine de quelque chose qu'elle porte, qui est le Christ aux eaux. Pas vous dire qu'elle est devenue une cruche, hein, mais une outre neuve, sûrement. Et cette femme qui ne voulait rencontrer personne, souvenons-nous. Elle faisait tout pour arriver à un moment où elle était sûre de ne rencontrer personne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle abandonne sa cruche et elle s'en va à la ville pour interpeller les gens et leur dire « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » On l'imagine en train d'haranguer sur la place du village les gens et dire ce qui lui est arrivé. Elle qui ne voulait voir personne, elle est devenue évangélisatrice. A été renversée par le Christ, bouleversée par le Christ, transformée par le Christ. La rencontre de Jésus s'est opérée et fait d'elle une missionnaire, une disciple missionnaire. Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. En plus, ça marche. Pas seulement qu'elle annonce l'évangile, mais c'est que ça marche. Ils sortent de la ville et ils viennent. Troisième temps et dernier temps. Cet évangile de la Samaritaine nous invite bien évidemment chacun à nous interroger sur notre relation aimante avec le Seigneur. La fréquentation de notre propre puits. Le puits de Jacob, c'est le lieu de la rencontre entre Jésus et cette femme de Samarie. C'est le passage de la source extérieure à la source intérieure, au fond de nous. Vous savez combien les spirituels, Thérèse d'Avila, François de Sales, je pense à Jean Tolère à nouveau, les mystiques réno-flamands, il parle du fond de l'âme, il parle du Grund, en allemand, le fond de l'âme. Et Henri de Lubac disait que pour lui, le passage le plus important de l'Écriture, c'est en Jean 14, 26, « Celui qui garde ma parole », nous avons parlé de la parole ce matin, « Celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Il y a un puits en nous et Dieu habite en nous. Nous le savons par la théologie, la présence d'immensité comme Dieu créateur, la présence de grâce, bien évidemment, à partir du baptême, la vie surnaturelle. Mais tout ça, ça ne peut rester des mots, que des mots, si nous ne l'expérimentons pas. Si nous ne goûtons pas cette présence de Dieu. Saint Bernard de Clairvaux, dans le commentaire du Cantique des Cantiques, dit à un moment donné... Bien des fois, le Verbe m'a visité. Comment est-il entré, comment est-il sorti, je ne le sais pas. Mais il se souvient des visites du Verbe. Il se souvient des visites du Christ au plus intime de lui. Il a goûté le passage du Christ, comme cette femme aura goûté le passage de Jésus dans sa vie. Et donc, il s'agit de découvrir ce lieu profond en nous qui est lié à notre désir, à notre soif de Dieu. Rappelons-nous ce que nous disait Jésus, le Père cherche des adorateurs. Tout comme à la croix, Jésus dira, il l'a dit avec la Samaritaine, mais il le dira à la croix, il y a son « j'ai soif », qui est en fait une soif d'être aimé par nous. Il y a une spirituelle qui n'est pas chrétienne, mais qui est une juive convertie. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est très intéressant comme elle parle de ce lieu intime, Etihil Esoum. Ça vous dit peut-être quelque chose. Etihil Esoum, c'est cette jeune fille juive qui va vivre une expérience mystique de Dieu dans une période extrêmement difficile, c'est en 1941, 42, 43. Qui va payer de sa vie, elle va mourir comme juive à l'époque, arrêtée et mise à mort. Mais elle fait, dans cette période extrêmement difficile et troublée, elle fait l'expérience justement de Dieu en elle. Je vous la cite. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. Et puis, elle poursuit. Cet après-midi, je me suis retrouvé tout d'un coup agenouillé sur la carpette brune de la salle de bain, la tête ensevelie dans mon peignoir qui traînait sur la chaise en rotin. Je ne suis pas capable de bien m'agenouiller, j'en ressens une sorte de gêne. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a aussi en moi un penchant critique, rationaliste, voire athée. Et pourtant, il y a en moi de temps en temps une profonde aspiration à m'agenouiller, les mains sur le visage, et à trouver ainsi une paix profonde, en me mettant à l'écoute d'une source cachée au plus profond de moi-même. Elle écrit ça le 15 septembre 1941. Et puis, quelques mois plus tard, voici des jours, des semaines que je songe à l'écrire, mais je ne parvenais pas à le formuler. Timidité ou encore fausse honte. L'agenouillement. C'est comme si ce geste correspondait maintenant à un élan de tout mon corps. Je le ressens dans mon corps tout entier. Parfois, dans les moments de profonde gratitude, j'éprouve en moi un profond besoin de m'agenouiller, la tête profondément inclinée, les mains couvrant le visage. C'est devenu un geste qui correspond à un profond élan de mon corps et aspire parfois impérieusement à se concrétiser. Et je me souviens, la fille qui ne savait pas s'agenouiller, elle parle d'elle-même bien évidemment, et la rude carpette de la salle de bain. Et, je termine, vous allez voir, c'est très beau. Et pourtant, au moment où j'écris cela, j'éprouve encore une certaine gêne à exprimer ce qui appartient au plus intime de mon intimité. J'aurais moins de réserve et de pudeur à évoquer ma vie amoureuse. Qu'y a-t-il de plus intime que la relation d'un être humain à Dieu ? C'est ce mystère que nous sommes appelés à vivre pour pouvoir l'enseigner aux autres. Et j'aimerais terminer, si vous le permettez, en donnant juste quelques points d'attention sur la prière, sur notre prière de prêtre, de baptisé aussi. Pourquoi ? Parce que la prière dans nos vies ministérielles, évidemment, est essentielle, vous le savez bien. C'est d'ailleurs bien que nous ayons en écho le pape Benoît, au moment du repas de midi, qui nous redit un certain nombre de choses, qui croisent ce que je peux vous partager. Je le disais hier, Presbyterorum Ordinis au numéro 3 nous dit que nous nous sanctifions par les actes du ministère. C'est vrai. Et c'est bien évidemment important de le vivre et d'y être fidèle et d'y être attentif. Mais le curé d'Ars, qui est assez terrible, nous dit, vous connaissez son expression, « Certains vont prier comme pour se débarrasser du bon Dieu. » Donc il ne suffit pas de prier, il faut encore savoir comment l'on prie. On peut parfois se laisser illusionner par un certain formalisme qui est nécessaire, mais qui n'est pas le tout de la prière. En tout cas, la prière pour nous, c'est d'abord la prière que l'Église nous demande de porter. Nous nous sommes engagés pour cela, au moment de notre diaconat en particulier. Il y a la prière de l'office, bien évidemment, prière dans l'Église et pour l'Église. Et en particulier, Benoît XVI le disait tout à l'heure, la prière des psaumes qui nous fait entrer dans les mouvements de l'âme du Christ lui-même qui nous le fait rejoindre. Il y a bien évidemment les célébrations sacramentelles. Et bien évidemment, au premier chef, on y reviendra dans deux jours, la place de l'Eucharistie, de la messe dans nos vies, comme prière. Mais j'aimerais vous rendre attentif et j'aimerais vous inviter peut-être à prendre un peu de temps pour réfléchir à votre prière plus personnelle. Je me souviens, lorsque j'avais ma formation de jeune évêque à Rome en 2008, je venais d'être nommé, nous avions eu des formations dans les différents dicastères, c'est le cardinaux-préfet en général qui nous faisait ces formations, sauf la formation sur la spiritualité de l'évêque. Elle avait été faite par un évêque allemand qui parle remarquablement bien français et qui nous avait fait toute une intervention sur la spiritualité du prêtre et de l'évêque que nous étions en train de devenir ou que nous étions déjà devenus pour certains d'entre nous. Il nous avait parlé de Presbyterum Ordinis. Je me suis autorisé une petite question. Je lui ai dit, le prêtre se sanctifie par les actes de son ministère. Presbyterum Ordinis numéro 3. Très bien, mais est-ce que cela suffit? Parce qu'il y a toute une partie de notre vie où nous ne sommes pas dans les actes propres du ministère. Et comment nous sanctifions-nous alors? Ce à quoi il avait répondu que la question était, pardonnez-moi, très bonne, parce qu'on pouvait effectivement lier la prière à un aspect fonctionnel de la vie. Le bon Dieu est content, j'ai fait ce qu'il voulait. C'était Richelieu, vous savez, qui disait son bréviaire. Il se trouve que Richelieu, la ville de Richelieu est dans le diocèse de Tours. Voilà. Nous avons même prié pour lui en septembre dernier. Je suis allé célébrer à Richelieu. Il y avait un anniversaire de son cardinalat. Mais le risque, effectivement, voyez-vous, c'est de passer à côté de quelque chose de profond. Nous nous sanctifions dans les actes du ministère, mais quand nous ne sommes pas dans les actes du ministère, nous nous sanctifions comme des baptisés, tout simplement, parce que nous sommes d'abord des baptisés. Et cela veut dire qu'à côté de la prière, je dirais, fonctionnelle, qui appartient à notre état de vie, à laquelle nous nous sommes engagés, les sacrements, la liturgie des heures, etc., il y a bien entendu toute notre prière personnelle, mais qui rejaillit dans notre vie ministérielle. Elle n'en est pas séparée. Elle va même, je dirais, donner plus de force à notre vie ministérielle. Et ça signifie toute la question, en particulier de la vie d'oraison, qui ne fait pas partie de nos engagements au ministère. On peut faire un engagement à faire oraison tous les jours. On a pris un engagement à célébrer la liturgie des heures. Publiquement, nous l'avons dit. L'oraison n'est pas obligatoire, entre guillemets, même si elle est absolument nécessaire et fondamentale. Mais c'est l'importance de nous dire où est-ce que j'en suis de cette prière plus personnelle. Et donc j'aimerais juste, pour terminer, évoquer trois choses. D'abord, dans notre vie de ministère, il y a ce qu'on pourrait appeler la prière pastorale. Cette prière pastorale, c'est Monseigneur Blum. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'était un évêque orthodoxe, il est mort il y a quelques années. Il était en Angleterre et il était très engagé dans l'œcuménisme. Il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que d'une certaine manière, nous prions la prière pastorale avec deux poumons. Le poumon des événements heureux et des événements douloureux de la mission. Et donc il disait que finalement, nous comme prêtres, nous comme pasteurs, eh bien, nous avons d'abord à prier sans cesse dans notre ministère en action de grâce avec toutes les personnes que nous rencontrons au long du jour et qui vont nous partager leur joie, qui vont nous partager ce qu'il y a de positif dans leur vie de chrétien, ce qu'il y a de beau, les fruits de l'esprit dans leur vie chrétienne. Nous sommes dans l'action de grâce. Et puis il disait, il y a un deuxième poumon de notre prière pastorale, c'est la prière d'intercession pour toutes les souffrances que nous recueillons. Alors évidemment, cette prière pastorale, nous pouvons aussi l'intégrer dans le bréviaire, dans la liturgie des heures, mais c'est aussi une prière, vous le savez bien, qu'on peut faire dans sa voiture, qu'on peut faire en marchant, en allant à sa voiture, qu'on peut faire en traversant la rue, qu'on peut faire tout simplement dans une déambulation, en quittant les gens que nous avons vus. Rester dans un état de prière. Porter la prière intérieurement. Parce qu'en fait, le cœur de la prière, dans la tradition chrétienne, dans la grande tradition chrétienne, c'est fondamentalement, vous le savez, la prière continuelle. Cette prière continuelle qui traverse toute la tradition monastique, Saint Antoine du désert, et cette prière continuelle qui, chez Saint Augustin, est d'abord la prière qui consiste à faire la volonté de Dieu. Comment prier de manière constante, comme Jésus nous y invite? Il faut prier toujours et ne jamais se décourager. Luc 18, 1, avec la parabole du juge inique et de la veuve, mais aussi la parabole de l'ami importun, par exemple, où Jésus nous dit qu'il faut toujours prier. La prière continuelle, donc, cette prière qui est à la fois tissée de notre prière de l'office, de nos célébrations, de notre prière pastorale, cette prière continuelle, nous dit saint Augustin, elle trouve sa trame fondamentale dans le fait de faire la volonté de Dieu. Il dit ça dans la lettre à Proba. Mais il ajoute, vous le savez, que les moines d'Égypte, eux, font plus que cela, et qu'ils lancent des flèches continuellement vers le cœur de Dieu, tout au long du jour. Et saint Augustin évoque bien évidemment, à travers cette pratique, ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle la prière continuelle, dont vous trouvez en particulier l'explicitation dans les conférences de saint Jean Cassien, la 9e conférence de saint Jean Cassien, que je vous invite à aller voir, qui est très intéressante sur ce point-là, parce qu'elle va déterminer toute une manière de vivre la vie spirituelle en Occident. Les moines d'Égypte priant et usant d'une formule de prière continue que vous devriez connaître en principe et que vous connaissez certainement puisqu'elle se trouve au début de chacun de nos offices. Et saint François de Sales nous dit que cette prière continuelle, ces oraisons jaculatoires entre autres, est une modalité de prière absolument incontournable dans la mission. Un jour, il venait d'ordonner des prêtres dans la cathédrale d'Annecy. Les ordinations étaient évidemment beaucoup plus longues à l'époque, et on raconte qu'il vient à la visitation à la fin de la journée, comme d'habitude, et il y a une visitandine, une jeune visitandine, qui l'attend à la porte et à laquelle il dit bonjour, et à laquelle il dit: j'ai pas eu une minute à moi depuis que je me suis levé ce matin. Et alors la petite visitandine lui dit: mais alors, monseigneur, vous n'avez pas eu le temps de faire oraison. Et le souci des visitandines pour leurs évêques quand même. Et François de Sales répond: non, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai fait tout ce qu'il a vaut, V-A-U-T. Et il commence à lui expliquer la pratique des oraisons jaculatoires et de la prière continuelle. Et il vous dit: je vous conjure d'embrasser cette pratique qui peut suppléer à toutes les autres formes de prière, mais aucune autre forme de prière ne peut suppléer à celle-ci. Cette prière qui fait le lien et l'unité de nos journées. Je sais bien que beaucoup d'entre vous connaissent la prière du nom de Jésus, etc. Mais c'est important de nous redire l'importance de ces petits moyens, mais qui nourrissent notre vie et qui nous mettent en profondeur. Alors je vous invite, oui, à faire le bilan, si vous voulez bien, de votre prière. Où est-ce que j'en suis de la fidélité à l'office? Où est-ce que j'en suis dans ma manière de célébrer? Où est-ce que j'en suis de ma prière pastorale, d'intégrer dans ma vie de prêtre, les intentions que je porte tout au long du jour? Où est-ce que j'en suis peut-être d'une pratique d'une prière continue? Où est-ce que j'en suis de ma vie d'oraison? Non seulement la fidélité à la vie d'oraison, mais vous savez que François de Sales, au début de son épiscopat, priait 2 heures par jour. Il le disait lui-même, à la fin de sa vie, il ne pouvait plus le faire. Il y a une intelligence pastoral aussi, de se dire: qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il n'en était pas moins saint. Mais la pratique de l'oraison continuelle en particulier supplait à des choses qu'il ne pouvait plus faire en raison de l'activité qu'il avait. Ça doit nous consoler aussi. Pas nous donner des occasions de nous dédouaner à peu de frais, mais ça doit nous faire réfléchir sur ce que certains auteurs spirituels, Paul Evdokimov en particulier, appellent les âges de la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas la même à tous les âges de la vie. En tout cas, je vous invite à faire ce chemin, à faire ce point, à voir aussi, et j'en termine, à voir aussi comment votre prière peut-être change et évolue. Comment votre oraison change, comment se transforme-t-elle ? La prière est une réalité vivante. Si nous prions vraiment, cette prière doit changer, bouger, prendre de nouvelles modalités. Comment cela se passe-t-il en nous ? C'est le moment de faire le point. Je vous laisse là, sachant que nous quittons une femme pour en retrouver une autre demain matin, puisque je vous propose tout simplement de nous arrêter demain au chapitre 8 de Saint Jean. Ça va vous inviter à lire le chapitre 5, 6 et 7, si vous le voulez bien. Je ferai un tout petit commentaire sur 5, 6, 7 pour démarrer demain matin. Et nous irons donc à la femme adultère, Saint Jean chapitre 8, versets 1 à 11, si vous le voulez bien. Chapitre 8, versets 1 à 11. Et si vous le voulez bien, nous terminons aussi avec une femme. La mère de Jésus, mère de l'Église, mère de notre sacerdoce, et nous nous confions à elle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Mère de l'Église, priez pour nous.